dans quelle machine a habité?
Habite-t-il?
Abrite.
Habite-t-il?
Comme dans le manifeste?
Oui, mais c'est un peu plaisir que tu sens y avoir trouvé.
C'est 33, 32.
Rencontre avec Augustin Berck. Géographe.
Bonjour.
Orientaliste. Et philosophe.
On va voir peut-être avec le code. C'est combien le code?
Il a publié, entre autres, Médiance, De milieux en paysage, Être humain sur la terre, Principe d'éthique de l'écoumène. Écoumène, Introduction à l'étude des milieux humains, La pensée paysagère, Histoire de l'habitat idéal, de l'Orient vers l'Occident, Milieu et identité humaine, Note pour un dépassement de la modernité.
Non, mais avec les RER, avec les changements sont assez faciles et puis oui. Ils font des longues distances, ça va, c'est assez rapide.
C'est quel RER?
Le D, ça va jusqu'à chez moi. On descend en fait à Gare du Nord. C'est même plus facile que de venir d'un endroit à Paris où il faut prendre plusieurs métros.
Oui,
simple.
Oui. Bon,
pas de problème. Puis voilà, on a fait.
Et vous, vous êtes venu de Bruxelles voilà. Ce matin?
Tout à fait.
Hier soir.
Ouais.
Hier soir, ok. Et à Bruxelles, il fait beau ou c'est la même chose?
Il a fondé le site Mésologique, étude des milieux humains.
On a vraiment juste ce petit appareil qui peut être posé un peu sur mon foulard.
Ah bon, d'accord. Bon, tout ça, c'est un bloc.
Très bien. Je vais prendre mon petit papier avec moi.
Avec Yoann Moreau.
Comme ça, ici?
Oui, oui. Mettez-le sur le divan, je vais le mettre en face.
D'accord, super.
Alors, c'est quoi le... Vous êtes journaliste, c'est ça ou...
Pas tout à fait.
Pas tout à fait.
Mésologique. Et ce qui se rapporte à la mésologie, l'étude des milieux, du grec meson, milieu, centre, moitié, moyenne. Champ de recherche initialement proposé par le médecin Charles Robin à la Société de biologie le 7 juin 1848. Mais le pluriel mésologique suggère encore deux idées. D'abord, la variété des points de vue et des approches. Le milieu, en effet, ne peut être absolu. Non seulement, dans un sens, il dépend d'un ensemble de relations au centre desquelles il se situe, mais dans un autre sens, il peut aussi vouloir dire l'inverse, à savoir ce qui entoure ce centre. Le milieu de vie des poissons, c'est l'eau qui les entoure. Mais chaque poisson est lui-même au milieu de cette eau, sur laquelle il a un point de vue qui lui est propre. En somme, chaque être vivant, humain en particulier, se trouve au milieu de son milieu. En français, le mot milieu a depuis longtemps cette ambivalence. Ce qui entoure un centre, et c'est ce qui centre lui-même. Voilà qui pose un problème logique. Et c'est justement ce que pourra suggérer le S de mésologique, à savoir la coexistence de logiques différentes, l'une n'excluant pas l'autre, et toutes se composant dans une logique moyenne, une méso. Logique.
Oui, en tout cas, la notion de mésologie, qui n'est pas neuve, hein. Elle date de 1848. Elle n'est pas très usitée. Et j'essaye de lui rendre vie. Ça, c'était le premier essai explicite dans ce sens. Mais la tournure d'esprit que ça implique, en fait, je l'avais dès le début. En tant que géographe. Matinée de japonisant. Parce que, évidemment, il y a une tournure philosophique. Ça vient du contact entre deux cultures très différentes qui posent immédiatement des questions de fond. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet ? Des choses comme ça.
Vous avez rencontré Watsuzi ?
Alors, oui, Watsuzi, je l'ai rencontré dès le début, parce que, étant arrivé pour la première fois au Japon en août 1969, j'ai commencé par aller voir un professeur à qui on m'avait recommandé, un géographe, et il m'a mis cet ouvrage dans les mains, dans la traduction anglaise pour commencer, parce qu'à l'époque, je n'étais pas très fort en japonais. J'en avais fait 2 ans au Langzhou à Paris, et comme je travaillais en même temps, et je préparais une thèse de 3e cycle, donc je n'avais pas beaucoup de temps pour m'y consacrer. Voilà, c'est ça le premier contact qui a été très décevant. D'abord parce que je n'étais pas encore ouvert à ce genre de questions, et aussi parce que c'était une mauvaise traduction. C'est une traduction qui ne traduit pas le concept central de l'ouvrage. Alors c'est gênant pour un livre de philosophie. Ce concept central, c'est celui que j'ai fini par traduire par médiance avec le temps. Mais bien entendu, il a fallu que je lise l'original en japonais. Mais comme au début, ça ne m'avait pas intéressé, à cause de cette traduction et pour les diverses raisons, ça m'a pris une bonne 10 années avant de m'y remettre avec le texte original. Et c'est vrai que ça a été difficile de trouver un mot français pour le traduire, comme les questions abordées tournaient autour de la question du milieu, tel que je le concevais, puisqu'en tant que géographe, c'était un mot qui m'était très familier. J'ai cherché à... Parce que le mot « fudo » qu'emploie Watsuzi, on peut le traduire par « milieu ». Donc il fallait trouver le concept qui correspondait. Littéralement, c'est « milieuité ». Mais « milieuité », ça mène à rien. Donc j'avais cherché à rendre la même idée avec un mot qui se tienne un peu mieux. Et je l'ai trouvé en... Alors, à l'époque, j'étais à la maison franco-japonaise de Tokyo, qui dispose d'une excellente batterie de dictionnaires de la langue française, de toutes époques. Donc, j'ai feuilleté des dictionnaires de la Renaissance, etc. Et dans le français de la Renaissance, il y avait, par exemple, « médiété ». Mais alors, « médiété », c'est un dérivé savant, dont le dérivé, le doublé populaire serait médiance. Donc j'ai décidé de prendre médiance. Voilà, c'est ça l'histoire de ce concept en français. Par la suite, bien entendu, mon approche n'était pas celle du philosophe qui était Watsuzi. Moi j'étais géographe et à l'époque je faisais ma thèse sur la colonisation de Hokkaido, c'est l'île du nord du Japon. Et le problème était effectivement comment apparaît un milieu dans un environnement qui était nouveau pour les immigrants, où ils apportaient leur culture, et finalement, du contact des deux, naissait un milieu nouveau qui était le milieu de Hokkaido. Alors c'était ça le sujet de ma thèse, centré sur les campagnes, puisque la question des subsistances, finalement la plus basique, comment survivre, il faut manger. Donc la thèse était centrée sur les campagnes. Et effectivement, une société assez particulière y est apparue. Toute proportion gardée, c'est le même problème qui s'est posé avec le Nouveau Monde. Des sociétés venues du vieux continent sont devenues américaines ou québécoises ou autres. Enfin, c'est américaine en somme. Avec des traits hérités et puis des traits nouveaux. Voilà. Donc c'est cette question, comment apparaît un milieu ? Et voilà, le concept, c'est médiance. Par la suite, j'ai travaillé dessus avec d'autres sources anthropologiques, philosophiques, ce qui fait que, tout en gardant la définition initiale de Watsuji, qui est très forte et très riche, à l'époque, d'ailleurs, je n'avais même pas encore lu, puisque ma thèse, je l'ai soutenue en 77, et le mot, je ne l'ai forgé qu'en 84. Watsuji donne une... c'est d'ailleurs très curieux, dès la première ligne de son livre, il donne cette définition, le moment structurel de l'existence humaine. Le moment structurel de l'existence humaine, c'est quasiment incompréhensible. Et au début, je n'y comprenais rien, hein, je vous dis, il m'a fallu du temps, mais petit à petit, j'y ai vu plus clair. Et en particulier, ce qui m'a permis d'y voir plus clair, c'était la lecture de Le Roi Gourand, Le geste et la parole, dans l'association qu'il fait entre ce qu'il appelle le corps animal et le corps social. Le corps social, c'est le déploiement de systèmes techniques et symboliques à partir des fonctions du corps animal. Et l'être humain est nécessairement, il couple les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ça, c'est ce couplage nécessaire d'un corps animal. Et alors je préfère dire corps médial parce qu'il n'est pas simplement technique et symbolique, il est nécessairement aussi écologique. Alors c'est éco-techno-symbolique. Et c'est ça le corps médial qui se couple au corps animal pour faire un être humain. Et le corps médial est nécessairement collectif. Par exemple, les systèmes symboliques, tels que le langage, c'est nécessairement quelque chose de collectif. Alors que le corps animal est individuel. Il y a donc une dynamique. Cette dynamique qui est le problème central que pose le concept de médiance, et en particulier tel qu'il est formulé par Watsuji, puisque le moment structurel, moment, c'est au sens de la mécanique, c'est-à-dire un couplage de forces qui en engendre une troisième. Et à partir de là, je continue à travailler. Et en particulier, quand j'écrivais « Le sauvage et l'artifice », dont le sous-titre est « Les Japonais devant la nature », j'ai eu besoin d'un autre concept que j'ai appelé « trajectivité », pour dire le processus dans lequel le milieu, qui est le corps médial, le processus par lequel apparaît la médiance. C'est ce que j'appelais trajection. Et trajection, ce n'est pas un concept qu'utilise Watsuji, mais finalement, maintenant, médiance, c'est quasiment un acquis, puisqu'il vient de loin, il vient de Watsuji. La direction dans laquelle j'ai travaillé davantage, c'était la trajectivité. La trajection, la trajectivité. Et la définition actuelle à laquelle je suis parvenu ces dernières années, pour le coup, est vraiment philosophique, puisque la trajectivité, c'est un processus à double sens, qui d'un côté, alors il y a plusieurs façons de l'aborder, la façon logique, c'est-à-dire utilisant des termes de logique pour l'aborder, c'est comment le prédicat et le sujet se combinent dans la réalité, et à la manière dont je vois le problème, donc ce qui pour moi est le cœur avec la médiance et le cœur de la mésologie, c'est cette trajection qui est d'un côté assomption d'un sujet, le sujet au sens logique c'est ce dont il s'agit, assomption d'un sujet en tant que un prédicat, ça c'est le premier aspect, Et le deuxième aspect, c'est dans l'autre sens, c'est hypostase de ce prédicat en sujet. Comme ça se déroule dans le temps, ça n'est plus le sujet initial, c'est un peu à côté, c'est-à-dire au lieu de S, ça devient S'. Hein? En somme, ça fait comme ça. Hein, et on peut le comparer un peu à ce que la phénoménologie appelle le rapport entre noèse et noème. Hein, la noèse produit des noèmes et s'appuie sur les noèmes pour poursuivre une noèse. Donc noèse, c'est l'activité de penser, et noème, c'est le résultat de cette activité. Donc on pense et on produit des idées, et ensuite on table là-dessus pour penser plus loin. Voilà. Mais c'est un peu comme ce processus d'assomption et d'hypostase. Hypostase, ça veut dire substantialisation, parce que l'assomption en P, c'est à partir d'un sujet saisi en tant que P. Par exemple, tel objet géologique va être utilisé en tant que ressource. Cette façon d'utiliser, c'est en somme une prédication, parce que c'est S en tant que P, en tant que ressource. Et puis, tout cela étant un processus qui se déroule dans le temps et donc historique, dans un stade ultérieur, on va tabler sur la réalité que cela a constituée, ce rapport entre S et P, pour aller plus loin avec d'autres prédicats, d'autres manières de saisir cette réalité. Donc c'est très analogue à Noèse Noël. Sauf que c'est tout à fait concret. Hein, par exemple, c'est un exemple que j'utilise souvent. Le fait géologique de l'existence du pétrole, pendant très longtemps, ça n'a servi, enfin, disons, c'était marginal. Et puis, il se trouve que, pour n'en prendre qu'un aspect, on invente un jour le moteur à explosion et qui utilise le pétrole en tant que ressource. Et ça, toutes sortes de problèmes viennent avec ça, qui sont vraiment des problèmes mésologiques, c'est que il y a un jeu de co-suscitation entre l'un et l'autre, donc en somme entre le sujet et le prédicat. Par exemple, le pétrole en tant que carburant permet le moteur à explosion, et le moteur à explosion, du fait de la demande, va susciter un besoin de la ressource qui en tant que telle prend de plus en plus de valeur. Donc existe de plus en plus intensément, jusqu'à transformer le monde et même la planète. Voilà, donc il y a aussi ce problème de co-suscitation qui est un problème insaisissable dans la logique dont nous disposons habituellement, qui est la logique du tiers exclu. Qui veut dire que entre A et non-A, vous n'avez pas de tiers terme, qui soit à la fois A et non-A. Alors que dans la réalité humaine, vous avez quotidiennement et nécessairement ce tiers terme, notamment dans le langage, qui fait le lien entre le vert et le mot vert. Le mot vert n'est pas. Si le vert est A, le mot vert n'est pas A. Et pourtant, dans la symbolicité, il y a à la fois A et non A, et c'est la même chose. Là, ça touche à des problèmes philosophiques sur qu'est-ce que c'est qu'une chose. Une chose n'est pas un objet. Une chose, alors Heidegger, entre autres, a bien développé ce terme dans un vocabulaire très abscon, mais une chose, c'est justement la concrétude et même la concrescence de la chose et du mot. Hein? C'est ça la chose, la réalité de la chose. Sinon, ça n'existerait pas pour nous. Mais nous vivons dans le cadre du dualisme où nous sommes obligés de distinguer, de dissocier les mots et les choses, comme disait Foucault. C'est ça la modernité. Et ça mène à des impossibilités, à des apories. Et finalement, la porie la plus profonde, c'est que ça nous rend incapables de penser le sens. À n'en faire, par exemple, qu'un jeu de signes, de contraste entre des signes. Alors que le sens, ça implique tout l'univers, finalement. Il s'élabore, bien sûr, jusqu'à devenir des concepts. Mais ces concepts supposent toujours le sens que leur donne la chair. Et là, ce qui m'a inspiré, c'est un linguiste et un... Alors, je sais pas quel... Bon, là, au moins l'un est un linguiste, mais l'autre, je ne sais plus tellement ce qu'il est. Peut-être tout simplement philosophe, si on peut dire simplement philosophe. C'est Lakoff et Johnson. George Lakoff et Mark Johnson. Un livre qui s'appelle « Philosophy in the Flesh », « Philosophie dans la chair », qui m'a beaucoup inspiré au moment où j'écrivais ça. Parce qu'il montre que les concepts les plus élaborés par un jeu de métaphores, ce qu'ils appellent métaphores primaires, finalement n'ont de sens que parce que ça table sur la manière dont la chair les interprète. Par exemple, catégorie, c'est contenant. Contenant, c'est tout à fait concret. Ça, c'est un contenant. Et ces concepts tels que catégorie n'auraient pas de sens si la chair, justement... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, pour dire ça, ils disent, dans ce cas-là, le système sensorimoteur est en position de prédicat. Alors qu'on pense évidemment l'inverse. On va se dire, c'est la conscience qui prédique, parce que c'est elle qui interprète en tant que ceci ou cela. Certes, la conscience interprète, mais aussi la chair interprète et en termes charnels. Et voilà, c'est encore ce thème de, je dirais, assomption et hypostase. Parce que tout cela finit par déboucher, c'est là-dessus que je suis en train de travailler en ce moment, c'est un livre que j'écris en ce moment. Dire que la chair interprète en termes charnels, sur le long terme, ça veut dire que le sens que un être vivant donne à son monde va induire, je ne dis pas causer, je dirais induire ou co-susciter une évolution de l'espèce. Alors là, la grande référence, c'est Uexküll, un grand naturaliste allemand de la première moitié du XXe siècle. Et très curieusement, sa théorie, il l'a mise au plus clair exactement au moment où Watsuji produisait son foudre. Mais lui travaillait sur le vivant en général, Watsuji sur les cultures humaines. Alors, j'ai demandé à un collègue allemand qui s'intéressait aussi à Watsuji si on avait pu, il s'intéressait très directement en tant qu'historien de la pensée, donc il avait vraiment de la documentation là-dessus, si Watsuji, qui a séjourné un an en Allemagne, avait connu au moins les théories d'Uexküll. Et il m'a dit on n'en a pas trace. Et notamment après avoir lu les cahiers de Watsuji, c'est-à-dire ses notes qu'il avait prises durant son séjour, très, très abondante. Moi, je n'y ai pas encore touché. Et non, il n'y en a pas trace. Donc, c'est un Zeitgeist. Hein, c'est un esprit du temps. Et peut-être aussi à travers Heidegger, parce que Uexküll a influencé Heidegger dans la théorie de la mondéité ou la mondanité, Weltlichkeit de Heidegger. Il y a une influence évidente de Uexküll, enfin d'autant plus évidente qu'avant d'écrire Être et Temps, Heidegger avait consacré tout un séminaire à Uexküll, à la pensée d'Uexküll. Donc Uexküll, qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré que chaque espèce vivante élabore son milieu, qui lui est donc propre, à partir du donné environnemental universel. Et il va produire deux concepts pour les distinguer. L'environnement comme donné universel, il l'appelle Umgebung, c'est-à-dire le donné autour. Et le milieu, il l'appelle Umwelt, c'est-à-dire le monde ambiant. Le monde ambiant. On peut traduire Umwelt à la fois par monde ambiant et par milieu. Mais la distinction est exactement homologue à celle que Watsuji établit dès le premier paragraphe de Shudo entre ce qu'il appelle l'environnement naturel, donc c'est le donné environnemental, et ce qu'il appelle Shudo, c'est-à-dire ce que je traduis par milieu. Parce que le milieu est donc propre à, dans le cas de Watsuji, propre à une culture et à une histoire, et dans le cas du Xul, propre à une espèce et donc à une évolution. Donc l'hypothèse sur laquelle je travaille, c'est ça. C'est faire le lien entre histoire humaine, parce que l'histoire humaine est nécessairement mésologique ou médiale, et l'évolution des espèces, terrain sur lequel je m'aventure avec beaucoup de circonspection, parce que moi je n'ai pas de formation dans les sciences de la nature, donc il ne faut pas raconter d'idiot aussi. Donc j'y vais doucement. C'est d'arriver à une poétique de la Terre avec un grand T, parce que c'est la planète, une poétique de la Terre qui ferait le lien ou l'embrayage entre histoire naturelle et histoire humaine. En effet, il apparaît que le réductionnisme mécaniciste, avec ses multiples manifestations au XXe siècle, comme le fordisme, et les effets du fordisme sur la désurbanité contemporaine, le taylorisme, le fordisme, les effets sur la désurbanité contemporaine, cela ne s'est pas borné à produire en fin de compte une civilisation insoutenable. Parce que c'est beaucoup plus profond, c'est vraiment ontologique. Ce réductionnisme, il commence par renvoyer l'humain au vivant.
Vous avez entendu dire par qui ?
Par vous-même, dans une conférence.
Oui, c'est ça. C'est poétique. Alors, pourquoi le grand T de Terre ? Parce que c'est la planète. Hein ? C'est pas la Terre comme sol. Enfin, quoique, c'est à la fois la planète et la Terre comme sol. C'est ça l'ambiguïté. Mais avec un grand T. Et poétique au sens de poièse. Poétique, c'est-à-dire création. Dans un colloque à Limoges, il y a un an et demi, avec des géographes et des germanistes, en travestissant une formule de Wittgenstein qui dit... attendez, c'est quoi déjà ? Il dit... les mots, je peux prononcer. Ah oui, die Dinge kann ich nur nennen. Je peux seulement nommer les choses. Sie aussprechen kann ich nicht. Je ne peux pas les prononcer. C'est-à-dire, je peux les nommer. Je peux dire le verre, je peux dire la terre, mais je ne peux pas faire sortir le verre de, comme ça, d'un souffle. Hein? Et encore moins la terre. Pourtant, je peux parler de la terre et la nommer la terre. Donc, travestir ceci, ça consiste à démontrer, parce qu'il faut le montrer, hein? Et même le démontrer autant que possible, que la terre, nous la nommons, mais c'est elle qui nous prononce. Ça veut dire que c'est l'histoire de la Terre qui nous a produits, mais que nous la prononçons, nous en parlons. Et c'est toujours ce processus de traduction alors à une autre échelle, et sur le très long terme, parce que dans cette interaction, car il y a interaction indéfiniment, il y a évolution, et pas simplement représentation, mais vraiment évolution, entre autres évolution de notre espèce. Là, ça rejoint la thèse de Leroy Gourand. Leroy Gourand a montré donc dans son livre Le geste et la parole, c'est vraiment une thèse à laquelle je crois fermement, que ce qu'il appelle extériorisation des systèmes techniques et symboliques à partir du corps animal, qui développent certaines des fonctions du corps animal, ont ensuite rétroagi sur le corps animal, le faisant ainsi évoluer en espèce humaine. Ce que je traduis avec des concepts que lui n'utilise pas directement, mais l'idée est la même, c'est que vous avez, par les systèmes techniques, anthropisation de l'environnement, ce qui en fait un milieu, par les systèmes symboliques, humanisation de l'environnement, parce que ça lui donne sens, ce qui en fait de rechef un milieu, et rétroaction de ce milieu sur le corps animal qui en fait Homo sapiens. J'y crois fermement. Il utilise des données qui, bien entendu, sont un peu obsolètes, mais ça change pas du tout le fond de la question. Et voilà, c'est le fond de la mésologie à partir de ces grandes références.
L'insistant sur cette co-suscitation processuelle induite par un milieu. Quand vous avez rencontré Watsuzi, peut-être que la pensée de guerre sentait encore le sang, encore, peut-être encore aujourd'hui le souffre, l'enfermement dans un milieu. Et je crois que ce fut relativement le cas de Nishida, qui a opté pour des thèses. Problématique, tout le monde.
Oui, ça peut. Oui,
parler de ce danger.
Les grandes pensées sont toujours impliquées dans des questions politiques aussi. Mais j'ai rencontré des gens qui disent, aussi bien de Heidegger que de Nishida, leurs accointances, l'un avec le nazisme, l'autre avec l'ultranationalisme, ôtent tout intérêt à leur ontologie. Je ne suis absolument pas d'accord. Et c'est même d'autant plus intéressant qu'eux, parce que comment ça se fait? Comment est-ce que c'est possible? Alors Heidegger, je ne suis pas spécialiste, et puis il y a beaucoup de gens très forts qui en ont parlé, vous les connaissez. Nishida, je me suis posé la question un peu plus en spécialiste, bien que je ne sois pas spécialiste de Nishida, mais à travers sa problématique de ce qu'il appelle le lieu, ou qu'on pourrait dire aussi le champ, ou même le milieu. Selon moi, d'ailleurs je le dis dans Ekumen entre autres, ce qu'il a fait, c'est culbuter le paradigme cartésien. Disons cartésien, bien entendu, c'est le paradigme occidental moderne classique, qui repose sur l'identité du sujet. Je pense, donc je suis. Il l'a culbuté pour en faire l'identité du prédicat, et absolutiser le prédicat. Et là, c'est un bon mystique d'absolutiser. Absolutisation du prédicat, c'est ce qu'on trouve aussi, révérence gardée, quand au début de l'évangile selon saint Jean, vous avez au commencement été la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. La parole, c'est ce qui se dit, c'est ce qui dit les choses, donc qui prédique les choses, qui saisit les choses pour en faire une parole. C'est un en tant que. Donc c'est le prédicat. Et absolutiser le prédicat pour en faire la substance absolue, qui est Dieu, ou le sujet absolu, qui est Dieu, c'est un bon mystique. C'est tout à fait homologue. C'est ce que fait Nishida. Et il le fait parce que il a subi très profondément l'influence du bouddhisme, qui est une religion qui est très, très armé logiquement et qui a développé une logique, notamment le tétralème, qui implique justement le dépassement du principe du tiers exclu. Mais bien que la pensée de Nishida m'ait beaucoup servi et continue à me servir, en particulier par l'idée justement du prédicat et de saisir le monde en tant que prédicat, ça c'est très riche, très inspirant, parce que le monde, ça n'est pas l'univers au sens des physiciens. Hein. Le monde, c'est quelque chose qui est propre à une certaine vision du monde, donc propre à une certaine culture, et comme dit Huxkull, propre à une certaine espèce. Hein. C'est vraiment Umwelt et non pas Umgebung. Donc le monde, c'est l'ensemble des prédicats par lesquels nous saisissons la Terre ou l'univers. Dans notre culture, comme des sociologues ont pu appeler ça Weltanschauung, c'est-à-dire vision du monde, ou tout simplement monde, comme fait Heidegger. Le saisir en tant que prédicat, c'est très très éclairant, parce que il y a une vingtaine d'années, où je n'avais pas lu tous ces philosophes, ni Nishida, ni Heidegger, ni le roi Gouran, mais simplement par un cheminement géographique à propos des ressources, j'en étais arrivé à, très grossièrement, à peu près le même éclairage. Mais il me manquait tous les concepts. L'idée que le pétrole devient ressource parce qu'il ne l'est pas géologiquement, géologiquement il est ce qu'il est, point. Il devient ressource dans l'histoire humaine grâce aux techniques humaines. Et parce que on le considère en tant que ressource. Mais ça, à l'époque, je ne pouvais pas le formuler de cette manière. Ce que j'avais pu faire néanmoins en tant que géographe, c'est de catégoriser la relation humaine à la Terre en quatre catégories, et catégorie ça veut dire prédicat, hein, chez Aristote. En somme, c'est vous mettez S dans des catégories. Les quatre grandes catégories en question, c'est ressources, contraintes, risques et agréments. À peu près tout se ramène à ça. Eh bien, ce sont des prédicats. Et l'ensemble de ces quatre grandes catégories, eh bien, ça constitue notre monde. Par exemple, notre monde, aujourd'hui, il est très largement déterminé par ce qu'est pour nous le pétrole. Et ce que n'était pas du tout le monde il y a 200 ans. Voilà, donc en cela, la philosophie de Nishida apporte beaucoup. Mais la mésologie ne le suit pas dans le bon mystique qu'il accomplit. Heidegger, donc, vous connaissez les problèmes. je n'ai rien de neuf à dire là-dessus. Alors, l'être vers la vie, c'est un concept que j'ai trouvé chez Watsuzi, qu'il a utilisé pour critiquer Heidegger et l'idée de être vers la mort, Sein zum Tode de Heidegger, qui, montre Watsuzi, est une façon de voir individualiste, parce que ça veut dire que l'être s'arrête à la mort du corps animal, du corps individuel. Ce qui entre d'ailleurs en contradiction avec ce que dit par ailleurs Heidegger du Dasein, in der Welt sein, être dans le monde et tout ça, mit sein, être avec les autres. Mais finalement, ça reste fondamentalement occidental moderne, c'est-à-dire individualiste. Et Watsuzi dit, non, dans la médiance, la moitié non individuelle ne meurt pas à la mort de l'individu. Elle se poursuit. Et c'est évident. C'est évident. Quand vous mourrez, votre nom ne meurt pas. Votre nom, ça fait partie de votre être. Et le nom reste. Les œuvres restent. Ce que les autres ont eu de relation avec vous ne cesse pas d'un seul coup à votre mort, etc., etc. Donc, le corps médial, comme je l'appelle, se poursuit, et ainsi l'humain, qui est de toutes les espèces vivantes, celle qui a le plus développé son corps médial, parce que les espèces animales en ont un peu, le plus développé, c'est chez l'humain, et l'être humain est par excellence être vers la vie. Et c'est ce que montre le fait, par exemple, que nous avons la capacité d'écrire l'histoire, ce que les espèces animales n'ont pas, etc., etc. Alors, être vers la vie, c'est quelque chose dont toutes les religions, toutes les cultures humaines en ont le pressentiment depuis très longtemps. On pourrait dire depuis le temps où les sociétés humaines pratiquent la sépulture. Ça veut dire qu'on pense qu'il y a un au-delà. Et l'être humain le fait depuis, c'est même plusieurs espèces humaines. C'est pas simplement Homo sapiens sapiens, c'est aussi Néandertalensis qui faisait des tombes déjà 100 000 ans avant Jésus-Christ, avant nous, disons, avant le présent. Et peut-être même avant. Peut-être même parce que on suppute qu'il y avait des tombes avant. Mais les premières où il y a véritablement des tombes avec des objets qui accompagnent les morts, c'est 100 000 ans avant Jésus-Christ. Au Moyen-Orient, à Skoul et à Kafze, ce qui est d'ailleurs sur le territoire d'Israël, terre prédestinée. On y parle de la vie éternelle depuis longtemps, sans doute. Voilà, donc ça c'est une des manifestations du pressentiment que toutes les sociétés humaines ont eu d'une vie au-delà de la mort. Et la religion est l'aspect le plus fort de ce sentiment humain, proprement humain, mais il y en a beaucoup d'autres. La volonté de laisser quelque chose de soi, c'est la plupart des humains l'ont. Voilà, seulement ça n'a pu être véritablement... là aussi il faut voir, je pense... Parce que j'ai vu par-ci par-là, mais ça ne me revient pas comme ça, chez divers auteurs, des philosophes en particulier, des formulations assez voisines. Mais aussi clairement dit, être vers la vie, je crois que c'est Watsuji qui l'a dit le plus clairement.
Très étrangement pour moi, cet individualisme que vous pouvez déceler, vous le trouvez aussi chez Simondon, qui est aussi qui a parlé aussi de l'individuation psychosociale.
Oui. Ce sont des. Dans le cas de Simondon, il s'agit des effets de la technique. Parce que c'est toujours à double sens. D'un côté, la technique nous permet de faire seul, donc individuellement, des choses qui autrefois pouvaient demander des dizaines ou des centaines de personnes, Aujourd'hui, à vous seul, vous avez sous la main des tas de systèmes techniques qui vous permettent de communiquer avec tout le reste du monde, de soulever 10 tonnes, de, tout ça. Donc, c'est vrai que ça a un effet individualisant. Mais ce qu'on oublie, et Simondou, justement, n'y fait pas attention, cela n'est possible que parce que nous avons un corps médial. Hein ? C'est pas l'individu qui a fait tout ça. Il ne peut le faire que parce qu'il participe d'un corps médial. Et ainsi, très curieusement, dans le cours de la modernité, où il y a eu essor de l'individualisme, à partir notamment du cogito cartésien, et puis finalement dans l'évolution sociale de l'individualisme proprement dit au XVIIIe siècle, et par la suite de plus en plus, paradoxalement, ça n'est possible que parce que il y a concomitamment développement des techniques et des systèmes symboliques qui vont avec, parce que ça ne va jamais l'un sans l'autre. Donc, c'est parce que nous sommes de moins en moins capables de vivre individuellement que, paradoxalement, nous sommes de plus en plus individualistes. Parce qu'il y a ce que j'appelle forclusion du corps médial. Ça veut dire que forclore, ça veut dire mettre dehors, c'est foris, et puis fermer la porte. Hein, c'est très exactement lock out. On a locked out notre corps médial. Voilà, donc la thèse de Simondon, elle ne voit qu'un côté, selon la manière de le voir. Hein. Elle ne voit qu'un aspect de la chose, elle ne voit pas le plus fondamental qui est... disons, elle en voit un côté plutôt sociologique, mais elle ne voit pas la structure ontologique qu'il y a là-dessous.
On forclôt le corps médial et on forclôt aussi le travail.
Alors,
vous faites toute la généalogie de...
Oui, en fait, j'ai commencé par utiliser cette formule dans un article que j'avais publié en 2004 dans l'Espace géographique et qui s'intitulait « La forclusion du corps du travail médial ». Du travail médial. Parce que, justement, tout ce travail que font pour nous les machines, on n'y fait pas attention. Évidemment, puisque ça se fait tout seul. Hein, c'est automatique. Pour s'en rendre compte, il faudrait le faire soi-même. Et l'histoire de cette forclusion, elle est très ancienne, parce que ça commence par la forclusion que... ce que Veblen appelle la classe de loisirs, a fait des classes laborieuses, du travail des classes laborieuses. C'est un processus qui a eu un retentissement immense sur des tas d'aspects de notre monde. Par exemple, le fait que le paysage, la notion de paysage apparaisse au IVe siècle en Chine, dans le mouvement érémitique, des mandarins qui prennent leur retraite, qui quittent la vie officielle et soi-disant partent dans le désert, comme on disait. En fait, ils y partent avec leurs serviteurs. Et... mais le paysage, l'apparition de cette notion, ça a été déclenché par ce regard qu'ils ont porté sur l'environnement en tant qu'objet de contemplation et non pas de travail. C'est pour ça que les paysans qui travaillent la terre et qui ont produit tous ces paysages qu'aujourd'hui nous trouvons beaux, eux n'étaient pas capables de le considérer en tant que paysage parce qu'ils le considéraient sous un autre jour. Mais la classe de loisirs, elle pouvait en faire un objet de délectation. Ça se lit très bien chez les poètes chinois de cette époque-là, et en particulier Xie Lingyun, qui est le premier poète paysager au monde. C'est né en Chine, cette notion. Donc, forclusion du travail paysan, ensuite, a fortiori forclusion du travail des machines, puisque les paysans, il leur arrive de se révolter, ils font des jacqueries, des choses de ce genre. Les machines, elles ne se révoltent pas. Tout ce qu'elles peuvent faire à la rigueur, c'est tomber en panne, mais pas plus. Et puis, finalement, forclusion de tout le corps médial, du milieu, pour la raison qu'on vient de voir, c'est-à-dire le développement de l'individualisme, comme si on n'en avait pas besoin, comme si on n'en dépendait pas, avec une traduction tout à fait concrète et très actuelle, avec le problème de l'empreinte écologique de notre mode de vie. On ne la voit pas, notre empreinte écologique. Et des tas d'aspects de notre vie, par exemple l'utilisation individuelle de l'automobile, etc., plein d'aspects de notre repose sur cette forclusion de notre empreinte écologique, c'est-à-dire le travail médial, c'est ça, c'est tout ce travail, toutes ces transformations qui se produisent dans l'environnement et que nous ne voulons pas voir, même quand des spécialistes dénoncent le problème. Il se passe ce qui vient de se passer à Rio, on n'en tient pas compte, c'est forclos.
L'homme est chez lui dans les nuées. Il trouve tout simple d'aller et venir dans le bleu et d'avoir des constellations sous ses pieds. Il décroche tranquillement et manie l'une après l'autre toutes les pourpres de l'idéal et se choisit des habits dans ce vestiaire. Être bas situé n'ôte rien à la hardiesse du songe. Peau d'âne veut une robe de soleil.
Alors une expérience qui est très proche de ce qu'on vit dans l'espace, c'est ceux qui vivent une expérience de sortir du corps. Qui ont l'impression à un moment donné que leur conscience et leur sens de la vue, de l'ouïe, etc., sort de leur corps physique. Parce que quand on part dans l'espace, on a l'impression momentanément qu'on est un peu comme des envoyés de l'espèce humaine, comme des ambassadeurs qui préparent les futurs voyages très lointains de l'espèce humaine. Alors, c'est mon corps physique qui a quitté l'espace, mais quand on vous sentez plus votre poids, vous pouvez regarder la Terre et oublier que vous avez un corps physique qui pèse quelque chose. Vous êtes là en train de flotter sans rien toucher, sans aucun muscle contracté. Si vous faites très attention, vous pouvez entendre votre cœur battre. Mais il faut vraiment se concentrer à cette tâche d'entendre son cœur battre. Mais vous avez l'impression que vous n'êtes plus.
Alors,
des yeux,
Ouroboros, c'est une image que.
Un odorat pour sentir l'odeur de la cabine.
Qui me trotte dans la tête depuis longtemps.
Donc voilà une expérience.
Et
parallèle à celle que peut vivre.
Parce que ça rejoint en fait ce problème du début à propos de la trajection. Et Noèse Noem, puisque c'est Ouroboros, la Noèse produit le Noème. Qui va produire une Noé, et ainsi de suite. Ça, Ouroboros, c'est le serpent qui se mange par la queue, se mange lui-même par la queue. Très ancien symbole de la Renaissance. Mais c'est comme ça la trajection. Sauf que ça avance, ça ne reste pas sur place. Ça, c'est de l'histoire et c'est de l'évolution. Donc la trajection, on pourrait la figurer comme Ouroboros. Et là, avec une petite déformation lexicale, je préférerais dire ourobore et au féminin, parce que dans ourobore, vous avez à la fois l'idée d'origine, c'est l'allemand ur, c'est l'origine première, arché, originaire, et puis ourobore, il y a aurore, donc c'est à la fois le plus ancien et puis le jour qui se lève. Voilà, je vais faire travailler ça aussi sur le plan graphique de ces jours.
Le côté obscur de d'Ouroboros aussi.
Ah, bien sûr.
Comme quand
bien sûr.
L'idéalisation de la nature mène à sa destruction, la pensée paysagère mène à la destruction des paysages. Comment avoir prise sur cette double versant
Ce thème que vous venez de dire, là, c'est le thème de mon dernier livre, qui était l'Histoire de l'habitat idéal, de l'Orient vers l'Occident, qui dans la trame, c'était de montrer que, pour aboutir à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la recherche de la nature détruit la nature, donc la recherche de la nature en termes de paysage et d'agrément détruit la nature en termes écologiques. Par exemple, d'avoir trois résidences, une à la montagne, une à la mer et une dans un beau quartier parisien, et puis aller de l'une à l'autre. Et il ne faut pas oublier d'avoir un riad à Marrakech, hein. ça va aussi avec. Et quand vous allez de l'un à l'autre comme ça, sous prétexte que vous aimez les beaux paysages, la mer, la montagne, vous consommez de l'énergie, des ressources diverses, et donc vous détruisez cela même que vous recherchez. Pour s'en tenir à un aspect, parce que bien entendu il y a l'aspect social et tout ça. Donc le livre en question montrait que pour en arriver là, c'est une très longue histoire qui débute par des mythes qui sont à peu près homologues, je crois, dans toutes les grandes civilisations, et qui se ramènent peut-être à une structure psychanalytique de nostalgie de la matrice, puisque c'est la nostalgie d'un temps où la terre, c'est-à-dire la nature, nourrissait l'humanité sans travail, sans qu'il faille la travailler. Hein, la terre, alors ça c'est le mythe de l'âge d'or chez Hésiode. La terre donnait ses fruits sans qu'il faille la travailler à cette époque-là, à l'âge d'or. Il y a l'homologue en Chine. Au début, donc, c'est un mythe d'un âge révolu, mais 800 ans plus tard, chez Virgile, ça devient, dans les Géorgiques, le mythe que heureux les paysans, s'ils savaient leur bonheur, la très juste terre épand pour eux une nourriture facile. Hein, c'est ce mythe de la classe de loisirs, bien sûr, que c'est un travail facile. Évidemment, alors que c'est le labeur le plus écrasant, bien sûr, et dans toutes les sociétés. Mais c'est un travail facile, quasiment négligeable. Plus tard, ça devient le mythe du paysage, ça participe du même mythe, donc la nature, elle est là, il suffit de la regarder et être capable, parce que bien entendu, ça réclame un goût particulier. C'est Xielingyun, le poète dont je vous disais un mot tout à l'heure, et il dit bien qu'il faut un goût, un shan, comme on dit en chinois, qui n'est pas donné à tous, hein, en tout cas pas aux pekno, d'être capable d'apprécier la nature en tant que paysage. Ce qui va donner naissance aux jardins paysagers, aux jardins de lettrés qui vont se développer plus tard, devenir d'immenses jardins impériaux qui sont paysagers, hein, avec ce qu'on appelle des fabriques, c'est-à-dire des constructions, des fausses maisons, comme le petit Trianon, hein, c'est des fausses maisons, mais c'est l'habitat idéal. Habitat idéal, tellement idéal que quand les jésuites, et notamment le père Attiré, qui avait participé à l'aménagement d'un jardin impérial, le Yuanmingyuan, en Chine, au XVIIIe siècle. Ils envoyaient des lettres, les lettres des jésuites, pour dire ce qu'ils voyaient là-bas. Et une lettre du père Attiré, qui décrivait le Yuanmingyuan, c'est le jardin de la clarté parfaite, et ses fabriques, dont une maison du genre Petit Trianon, a tellement impressionné les Européens, ils ont cru que c'était des vraies maisons dans un vrai paysage, que ils l'ont idéalisé, et ils ont cru que c'était des vraies maisons qu'ils se sont efforcés de reproduire, c'est-à-dire ce qui était dès le départ un mythe, parce que le mythe de l'ermitage paysager, que les mandarins ont construit et qu'ils ont pu construire à travers les lettres, parce qu'ils étaient lettrés. Et c'est eux qui ont écrit cette histoire, puisque les paysans n'écrivent pas l'histoire. Hein. Ils écrivent pas, ils savent pas écrire. Donc ils ont écrit cette histoire, ils ont affabulé cette image de l'ermitage dans une pleine nature, qui s'est développée par la suite, arrivée en Europe via les jésuites, via en particulier le traité essai sur l'architecture de l'abbé Laugier. L'abbé Laugier qui va prendre l'exemple d'une maison que décrivait le père Attiré, et il l'appelle la maison délicieuse. La maison délicieuse. Et il regrette que Laugier n'en ait pas donné les plans, parce qu'on aurait pu la refaire. Mais il y a l'idée. L'idée de la maison délicieuse, ben, ça va par la suite se... comme on dit, se répand, pas infuser, mais bref, ça va pénétrer dans le reste de la société petit à petit. Ça va être l'idéologie qui va attirer des foules urbaines hors de la ville, à la recherche de la nature, plus particulièrement dans le monde anglo-saxon, pour produire ces suburbes. La bonne société se doit de vivre dans les suburbes, dans le monde anglo-saxon. Parce que, par exemple, dans le cas de Paris, ça reste très bien d'habiter à Saint-Germain, dans le quartier Saint-Germain. Mais, donc, l'idéal, c'est la maison soi-disant dans la nature. Et qui va devenir, au XXe siècle, même The Little House on the Prairie, hein, la petite maison dans la prairie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et on va tous rechercher ça, et ce qui va rendre possible cette quête, plutôt que les transports en commun, ça va être l'automobile. Donc là, ça va se combiner avec le fordisme qui ne consiste pas seulement à produire des automobiles Ford, mais qui est tout un système de production et de consommation de masse des biens durables. Ça, c'est notre civilisation. Alors aujourd'hui, les économistes vous disent le fordisme s'est dépassé, mais en réalité, c'est notre mode de vie est fordiste, puisqu'il repose notamment sur l'automobile individuelle, la maison individuelle, idéalisée par 80% des Français, je ne sais pas combien c'est en Belgique. Depuis des décennies, les urbanistes, les économistes, les géographes ont beau dénoncer le coût de la maison individuelle, et maintenant s'y ajoute la critique écologique, l'opinion n'en démord pas, c'est toujours 80% qui préfèrent la maison individuelle. Avec chacun deux voitures aujourd'hui, et sinon acte, trois.
Rejoint, touché. Chacun mène ses préparatifs. Chacun espère que cela tombera juste un peu plus loin. Un peu plus loin que quelqu'un sera frappé. Chacun a ses têtes désignées. Chacun connaît une poignée de noms viraux. Zo, citez les pigeonniers, il est 22h04. Ça commence à fusiller dans les westerns. Territoire, griffes. Scarification sur les murs, les mobiliers urbains, déchets brûlés, recyclés en marquage, cités administratives, cités ascensionnelles, cités des familles, cités du bis, toutes les cités, sur un même lieu, peu d'interactions, chevauchement. Les uns veulent les quitter, les autres veulent les purger. D'autres encore veulent obtenir une homogénéité. Changer les proportions, les quotas, on en met plus et des mieux, des nouveaux.
Pourtant, par l'idéalisation du mode états-unien de vie, qui est la conjonction entre circadien, wildlife et
l'attention prend la place que dans toutes nos sociétés occupe l'économie, mobilisant les énergies, distribuant les relations. L'attention est tout un pan de l'activité sociale. C'est pas encore la guerre, c'est autre chose, touchant directement à la notion de territoire. Alors, ce calfeutré, inventer une petite zone préservée de l'autre, le faire reculer, le rejeter dans un ailleurs sans fin, sans fond, comme dans les films d'horreur. Pulsation dans les salons, toutes lumières éteintes, pulsation sous les couettes et les draps dans les chambres closes, pulsation sous la douche poussée à fond, car pulsation. Il se shampooine la calvitie pour la troisième fois de la soirée et il n'est que 10h30.
Je commence à en avoir partout de dos.
Oui, j'ai oublié de parler de l'individualisme méthodologique. C'est-à-dire de concevoir. Ben alors là, ça doit vous parler. Mm-hmm. La controverse entre Spencer et Durkheim. Que Durkheim, donc, montrait ce que c'est qu'un fait social. Mais pour Spencer, et dans toute la tradition qu'on a appelée plus tard individualisme méthodologique, tout part des rapports entre les individus. Donc des rapports de diverses sortes, et notamment contractuels, alors que Durkheim montre qu'il y a un fait social et que c'est à partir de là qu'il peut y avoir individu. C'est ce que moi je suis de l'avis de Durkheim. C'est, l'individu, c'est pas une donnée première, c'est une élaboration historique. Et l'individualisme date du XVIIIe siècle, avec bien entendu des présupposés qui remontent plus loin dans le temps, notamment le cogito. Je pense donc je suis, c'est je pense donc je suis, c'est-à-dire pas besoin. Et d'ailleurs, Descartes dit très clairement, dans un passage du discours de la méthode, en substance, hein, parce que, que je n'ai besoin d'aucun lieu pour être, ni d'aucune chose matérielle. C'est-à-dire, j'ai seulement besoin de me penser moi-même. Voilà. C'est ça l'essence. Mmh. Alors je l'appelle le tome, T-O-M, parce que c'est topos ontologique moderne. Et topos, alors là ça vient d'Aristote, parce qu'il y a une source aristotélicienne à cette question, qui est la définition qu'Aristote donne de ce qu'il appelle le topos, donc le lieu, et qu'il le définit comme un contenant immobile. Par exemple, ça c'est le contenant immobile, c'est le lieu de l'eau qu'il y a dedans. Et la chose qui est dans le lieu ne peut pas dépasser la limite du lieu, parce que sinon elle deviendrait autre chose, elle aurait une autre forme. Et le lieu est immobile, alors que la chose est mobile. Ce qui veut dire que vous pouvez séparer la chose du lieu. Et c'est la très lointaine source de l'indifférence au lieu, dont témoigne notamment l'architecture moderne, qui a reproduit les mêmes formes, c'est-à-dire les mêmes choses, aux quatre coins de la planète, indifféremment au lieu. Donc, là j'en parle, d'ailleurs ça fait le premier chapitre d'Écoumène, la très grande différence qu'il y a entre le topos, selon Aristote, et la kora, selon Platon, parce que la kora, elle, n'est pas dissociable de l'être relatif qu'il y a dedans. Elle est à la fois empreinte matrice. Et c'est pour ça que, d'ailleurs je ne suis pas le seul à l'avoir compris de la sorte, on peut l'interpréter comme milieu. Et la kora, le milieu, c'est une kora, dans ce sens d'empreinte matrice. Ça revient à la question de la trajection, à l'ourobore, etc. Alors que le topos, lui, il est très strictement délimité, donc c'est un vase immobile. Et Aristote aboutit, en fin de compte, c'est dans la physique, au livre 4, le topos, c'est la limite immobile immédiate, hein, limite immobile immédiate, c'est-à-dire c'est le contour exact de la chose ou de l'être qui se trouve là. Et le tome, c'est ça, l'individu qui forclôt son corps médial pour se limiter à son corps individuel, il est dans un topos et non pas dans une kora. C'est pour ça que j'appelle le tome. Mais comme il est apparu à proprement parler seulement avec la modernité, et notamment avec le cogito et le dualisme, il est moderne.
Ma question va porter si, outre ces mythologiques prédicatives donc, que vous avez mentionnées, s'il n'y avait pas aussi quelque chose qu'on pourrait appeler un mythe colonialiste, qui nous amènera peut-être à la question de la propriété privée aussi. Je fais référence à un livre qui s'appelle L'inhabitable capital.
Ben, forcément, ça va avec l'histoire de l'Occident moderne, et notamment avec l'appropriation du continent nord-américain par des Européens, au détriment des autochtones, des peuples premiers. Et la forclusion de l'existence de ces, si on prend l'exemple des États-Unis, hein, je ne vais pas prendre le Canada, je ne veux pas faire sur mon épouse. Mais donc la terre, on va l'approprier, et ça veut mettre la base de la démocratie jeffersonienne qui repose sur le travail du propriétaire. Donc une nation de propriétaires paysans, c'était l'idéal jeffersonien, et vous voyez qu'il est très anti-urbain, parce que les pères fondateurs, ils ont fui la ville. Voilà, donc créer une nation nouvelle sur cette base d'appropriation de la terre que l'on va géométriser, c'est-à-dire ça va être ce qu'on appelait le township, qui est un quadrillage, c'est géométrique, mais là, d'ailleurs, c'est un jeu de mots que je fais dans Écoumène, c'est géométriser au sens de faire de la géométrie, mais j'ai aussi géométriser, c'est-à-dire maîtriser au sens de dominer, la terre, maîtriser la terre en forclosant les Indiens. Et notamment par le système juridique de la propriété, puisque eux, ils étaient des nomades, hein. Ils utilisaient leur milieu sans s'approprier la terre. Mais le mode d'occupation des Américains, ça va être l'appropriation individuelle de la terre. Là-dedans, il y a un côté qui est lié aussi au développement du capitalisme, parce que l'appropriation individuelle de la terre, elle s'est faite aussi en Europe, aux dépens des communaux, qui étaient une jouissance commune de l'environnement, et ça va être remplacé par le mouvement des enclosures, par la propriété individuelle. Ceux qui étaient qui utilisaient cela en collectif, et ben, ils n'ont plus qu'à émigrer ou à devenir les métayers ou les fermiers des grands propriétaires. On voit ça très bien dans les Landes, là, parce que ma famille est des Landes, dans le sud-ouest de la France. Jusqu'au 19e siècle, c'était, comme le nom l'indique, des Landes, où on voyait paître sur de grandes, très grandes surfaces des troupeaux. Donc c'est une jouissance collective des communaux. Et puis, au XIXe siècle, et en particulier sous le Second Empire, l'État va pousser à la plantation de pin, et ça va être lié aussi avec les transformations économiques qui vont aboutir à ce que les anciens communaux qui étaient la lande vont devenir de la forêt de pin appropriée individuellement par les grands propriétaires. Donc les petits paysans, ne pouvant plus utiliser les communaux qui étaient une source d'engrais, notamment parce qu'on pouvait prendre des diverses choses qui poussent là-dedans, la crotte des moutons et tout ça, pour engraisser leurs petits lopins, il ne restait plus que leurs petits lopins, donc ils ne pouvaient plus vivre sans les engrais et tout, donc ils étaient obligés de devenir les métayers des grands propriétaires pour travailler leur forêt. Donc c'est lié, donc ce qui était la cora de la société paysanne va devenir le topos de la grande propriété. Ça, c'est vraiment l'évolution du capitalisme et qui ne cesse de se poursuivre, de s'accentuer. Par exemple, dans un mode de gestion qu'on appelait le toyotisme, et qui a permis justement que Toyota devienne la première compagnie de production d'automobiles. Enfin, il y a eu ce problème de Fukushima, donc là il s'est fait un peu rattraper par General Motors, mais il va reprendre du poil de la bête. Ça consiste à notamment à pratiquer le just in time. Just in time, ça veut dire que au lieu d'entretenir des stocks de pièces détachées, donc pour avoir des stocks, il faut avoir des hangars, il faut le gérer, l'entretenir, ça coûte cher. Just in time, ça veut dire vous commandez la pièce au sous-traitant juste au moment où vous en avez besoin. Donc, vous l'avez, mais pour l'avoir, vous êtes obligé de faire circuler une flotte de camions qui utilisent gratuitement les routes nationales, ce qui aboutit, et pour le plus grand bénéfice de la grande entreprise, à une empreinte écologique, puisque les camions qui roulent à longueur de temps sur les nationales, donc c'est payé par la collectivité, c'est payé par l'environnement, et ça devient profit du grand capital. Vous voyez, c'est toujours ça. C'est le topos qui, au détriment de la cora, se développe de plus en plus. C'est la logique de notre, de la modernité. Il s'agit de reprendre conscience de notre structure ontologique, parce que finalement, tout dépend de ça. Tant qu'on n'aura pas reconnu qu'on n'est pas un cogito, enfin, pour Descartes, le cogito, c'est l'âme. Mais comme la modernité s'est débarrassée de l'âme, maintenant c'est le corps. Donc on n'est pas un topos limité à son corps, on n'est pas un tome, on est un être humain qui suppose un corps médial et dont on doit prendre, qu'on doit prendre en considération. Là, il faut, de même que au départ de la modernité, c'est-à-dire l'instauration du paradigme occidental moderne au XVIIe siècle, il y a eu une révolution ontologique, bien qu'elle ait des racines lointaines. Donc, l'instauration de ce « je suis » individuellement, on a besoin d'une révolution ontologique aussi aujourd'hui.